Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Vie de bureau, management et recrutement. Le programme de cet épisode, c'est pour démarrer un entretien avec le DRH de Manpower Group. Il s'agit de Franck Baudiquian qui va nous parler évidemment d'innovation sociale, d'intérim, mais aussi de l'emploi des seniors. Ensuite, on va partir à la découverte d'un nouveau métier, celui de Chief of Staff. Il n'est pas nouveau, mais il est en plein essor dans notre pays. L'Institut Choiseul et le cabinet Roland Berger publient une étude. C'est Anne Cortegiano et Paul Gadel qui seront avec nous pour la décrypter, comprendre ce métier et savoir qu'est-ce qu'on fait pour recruter un Chief of Staff ou comment on fait pour devenir Chief of Staff et puis sortir de cette profession qui, vous verrez, est un tremplin vers la suite. Et pour terminer, on décryptera ce chiffre: 810 000 entrées en alternance en 2022. C'est Arnaud Muret, le directeur général de l'OPCO, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, boulangerie, restauration, immobilier, qui sera avec nous pour parler de ce chiffre et des bonnes pratiques entre l'univers de la formation et l'entreprise, et évidemment les gens concernés, ces alternantes et ces alternants.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Notre DRH de la semaine, c'est celui de Manpower Group. Il s'agit de Franck Baudiquian. Bonjour Franck.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. On vous reçoit, il y a pas mal d'actu, on a plein de choses à discuter avec vous. Vous êtes le DRH, la personne aux manettes de tout ce qui est ressources humaines de ce très grand groupe. Résumez-nous Manpower Group en deux, trois phrases avant qu'on commence la discussion.
En fait, c'est une activité, si vous voulez, qui est plutôt matricielle, où je dois faire fonctionner les trois DRH de nos trois grandes marques, qui sont trois entreprises avec trois cultures. En même temps, on doit avoir une activité de groupe, c'est-à-dire une activité ombrelle qui chapeaute l'ensemble des structures. Et en même temps, on a des responsabilités au niveau de la branche, au niveau national, où on est un petit peu le fer de lance du travail temporaire en France.
Voilà les travails temporaires, on va en reparler avec vous. On vous reçoit aujourd'hui dans un petit boulot parce que vous avez pas mal de boulot devant vous.
Oui,
vous avez
un
gros nombre de gens à recruter cette année. On va le dire tout de suite, vous cherchez 3000 personnes, essentiellement en CDI et puis pour les plus jeunes en alternance. Qu'est-ce qui explique vos besoins en recrutement aussi forts en ce début d'année 2023?
Vous avez au moins trois bonnes raisons. Bien évidemment, alors c'est peut-être pas la première, mais c'est celle à laquelle tout le monde pense, il y a un petit peu de turnover. La deuxième, c'est qu'il y a des créations d'emplois, pas mal. Et la troisième, c'est qu'il y a aussi de la transformation, c'est-à-dire que la transformation de notre entreprise, qui se doit de toujours être à la pointe de l'innovation, si vous voulez, nous amène à rebeloter ou à réorganiser certaines fonctions avec des nouveaux outils, avec des nouveaux dispositifs, ce qui fait qu'on est amené à changer de temps en temps le profil des personnes.
À faire tourner un petit peu. Ouais. Quels sont les secteurs qui sont à l'origine du plus grand nombre de créations d'emplois en ce moment qui vous concernent ?
Aujourd'hui, vous avez deux grands métiers, mais je vais faire de l'ombre aux autres parce qu'à peu près tous les métiers tirent aujourd'hui. Mais vous avez quand même chez nous deux grands métiers qui tirent. Le premier, c'est tout ce qui est technicien pour notre SN, tout ce qui est technicien helpdesk, technicien d'assistance, technicien sur poste de travail. Et vous avez le deuxième, c'est le recrutement, les métiers du recrutement, parce que sur un groupe de 8000 personnes, vous avez à peu près la moitié qui touche au recrutement et vous en avez plus de 500 qui ne font que du recrutement. Donc sur ce métier-là, on a des gros besoins et c'est un métier qui est en tension, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, parce qu'il y a 10 ans de ça.
Oui, on le sent à BFM.
Ah, non, mais il y a 10 ans, personne n'aurait dit que le métier de consultant en recrutement pouvait être un métier en tension.
RRH.
Et là, voilà, voilà. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on voit bien que c'est un métier qui tire. Donc c'est la deuxième fonction. Mais après, on a beaucoup d'opportunités aussi sur tout ce qui est gestion, comptabilité, en finance, dans la paye, beaucoup de métiers.
Alors vous avez parlé évidemment d'innovation. J'ai envie de vous demander quelles sont les innovations sociales qui sont en marche chez Manpower Group.
Alors, si vous voulez, nous on est des professionnels du recrutement. Donc assez rapidement, on s'est dit que il suffisait pas d'être moyen en recrutement, il faut qu'on soit excellent, il faut qu'on ait une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'on a tous les dispositifs de recrutement pour tous les niveaux, aussi bien des recrutements individuels que des recrutements collectifs. À ce titre-là, on a des process et dans cette volonté de toujours être un peu en avance, par exemple, on s'est posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour avoir un diplôme, comment dire, une formation spécifique au recrutement. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a 3 ans, elle n'existait pas, et c'est nous qui l'avons créée, et on l'a mise sur le marché, et donc aujourd'hui, vous avez un diplôme consultant en recrutement, et c'est notre CFA qui l'a imaginé. Après, vous avez tout un tas de dispositifs qui permettent de répondre, en fait, aux besoins des clients. Voilà.
C'est quoi le plus gros problème que vous gérez au quotidien en tant que DRH de ce groupe ?
J'ai pas de plus gros problème. J'ai une multitude de petits problèmes. Le plus gros chantier, c'est la construction d'une cohérence d'ensemble, si vous voulez. Nos métiers, c'est des métiers de prestation de services où on est en relation avec des clients et tous nos salariés ont à cœur en fait de servir leurs clients et donc ils sont prêts à tout pour satisfaire leurs clients. Mais quand chacun est dans son couloir de nage, si vous voulez, quand vous prenez un petit peu de recul, si vous voulez mettre de l'équité, de la cohérence dans tout ça, c'est là qu'il faut être attentif.
J'ai lu quelque part que vous auriez pu être entraîneur ou curé, mais vous êtes devenu DRH. Est-ce qu'il y a une dimension de coaching ou quasi religieuse dans votre quotidien?
Religieuse, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une dimension, c'est une très bonne remarque. Mais il y a une dimension de croyance, si vous voulez. Je crois que c'est, d'une certaine façon, c'est la foi qui fait. La croyance qui permet de se dépasser et finalement de dépasser tout le monde. Et il y a une dimension d'entraîneur, c'est vrai, parce que au-delà de la performance individuelle, je crois que c'est le collectif qui permet de transcender l'ensemble. Voilà.
Franck Baudiquian, une dernière question pour vous. Vous êtes DRH depuis longtemps, vous êtes passé par plusieurs groupes, vous êtes notamment passé par le groupe DHL, vous étiez chez A-Group au début de votre carrière. Ouais. Vous avez travaillé sur les 35 heures, c'était un peu le gros chantier des années 2000.
Oui.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Est-ce que c'est un chantier pour vous chez Manpower ? Est-ce que l'emploi des seniors est au cœur de vos préoccupations ? Comment on peut aborder ce sujet pour conclure notre entretien ?
Alors, c'est sûr que la question des retraites, ça va être une question qui est déjà notre actualité. Encore que chez nous, on a un accord depuis pratiquement plus de 5 ans. Ça fait déjà une demi-douzaine d'années que c'est notre préoccupation et où on essaye de trouver des solutions parce que nous sommes sur des métiers de savoir-faire. Et donc, en fait, notre métier ne se déduit pas. C'est une expérience constante. Donc, il y a une véritable acquisition de savoir et donc les seniors, si vous voulez, sont les détenteurs de ce savoir et de ces savoir-faire. Donc, chez nous, ils ont une valeur et on tient à les garder le plus longtemps possible.
Possible, idéalement ?
Ah, chez nous, on a encore, vous savez, on dit que pas tout le monde fait carrière dans la même entreprise, ce qui est vrai, mais chez nous, on a beaucoup de gens qui sont avec plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans d'ancienneté, hein, et dans les différents registres du jeu, si j'ose dire. Non, chez nous, c'est très, très important. Non, là, il va y avoir un chantier qui va être important aussi. Ça va être la gestion du télétravail, parce que le télétravail, ça a été une mode. Alors, c'est peut-être un petit peu passé, sauf que les organisations s'y sont mises. Et maintenant, il va falloir quand même digérer tout ça, que tout le monde trouve sa place, que la productivité n'en souffre pas. Donc, il va y avoir quand même tous ces phénomènes là qui vont s'installer dans la durée, si j'ose dire, si on veut parler de y compris de la durée du travail.
Mais oui, le confort, le bien-être, pour aussi donner envie aux gens. Qui le peuvent, bien entendu, de rester le plus longtemps dans la vie active. Merci beaucoup, Franck Baudican, pour vos réponses. Vous êtes le DRH de Manpower Group. Et puis, je rappelle, hein, le groupe recherche 3000 personnes cette année. Vous aviez déjà un recrutement assez important sur l'année dernière, 2022. Ouais. Restez avec nous. On va parler du métier de Chief of Staff. Vous avez un Chief of Staff, Franck ?
Non, pas encore. Une, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir.
Restez avec nous, c'est juste après ça.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Le sujet sur la table, ou plutôt le métier sur la table aujourd'hui, c'est celui de Chief of Staff. On va discuter de qu'est-ce que c'est que cette profession. Peut-être que vous en avez dans votre entourage, peut-être que vous êtes vous-même Chief of Staff. Deux personnes avec nous pour décrire et faire le portrait de ce métier. D'abord, Anne Cortegiano. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes directrice des affaires extérieures et de l'engagement du cabinet Roland Berger. Et Paul Gabdel. Bonjour Paul.
Bonjour Laurent.
Vous êtes directeur des opérations et des études de l'Institut Choiseul. Alors pourquoi vous pour aborder ce sujet ? Bien parce que vous êtes à l'origine d'un club. Un club, le club Chief of Staff, pour, par et avec ses membres de la profession. Alors, premier exercice, qu'est-ce que c'est qu'un Chief of Staff ? Comment on peut définir ça en français ? Anne, peut-être, pour commencer.
Un Chief of Staff, c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle fonction qui voit le jour dans les entreprises, et notamment les entreprises françaises, qui nous vient tout droit des États-Unis. Et si on essaie de traduire le terme, on dira que c'est un mélange de directeur de cabinet. Cette fonction est née dans les années 50 dans l'armée américaine. Et aussi de chef de cabinet. Donc il y a un enjeu à traiter le fond sur la stratégie du dirigeant et d'une entreprise, mais aussi à gérer l'agenda du patron.
Paul, on complète ou tout est dit ?
Tout à fait. C'est une fonction polymorphe. On utilise le terme de Chief of Staff parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres pour l'instant. C'est une fonction qui est en cours de définition, en cours d'institutionnalisation au sein des grandes entreprises françaises et au sein aussi des plus petites du Next 40, puisque notre étude avec Roland Berger regarde à la fois les entreprises du CAC 40, celles du Next 40 et celles du Next 120. Et on se rend compte qu'il y a des Chief of Staff maintenant un petit peu partout dans les hautes strates de l'économie française.
Alors cette étude que vous pouvez retrouver sans difficulté, elle montre qu'il y a à peu près 800 Chief of Staff en France, hommes et femmes confondus. Vous l'avez dit, la profession, elle trouve ses origines aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est particulièrement d'être Chief of Staff français, Paul ?
Être Chief of Staff en France...
Dans une entreprise française, on pourrait dire.
Dans une entreprise française, alors, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de Chief of Staff différents. Le Chief of Staff va dépendre de la taille de l'entreprise, des besoins de cette entreprise, des besoins du dirigeant, surtout de l'entreprise. Parce qu'un Chief of Staff, ça n'existe que lié à un dirigeant. C'est une sorte de dédoublement du dirigeant. Il est là pour optimiser le temps et l'espace mental disponible du dirigeant. Il est là pour, en fait, filtrer les informations qui parviennent à l'entreprise, sélectionner les plus importantes, commencer à les mettre en œuvre, à les mettre en dans une forme un peu opérationnalisable et à les présenter aux dirigeants.
Anne Cortegiano, Roland Berger, qu'est-ce qui fait la différence entre un chief of staff et, pardon de mettre les choses comme ça, un ou une assistant exécutif, voire même un bras droit à proprement parler ?
Pour compléter ce que disait Paul, on a eu une surprise, voire une difficulté en réalité quand on a réalisé l'étude et qu'on a commencé à faire des entretiens avec les chief of staff, c'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a autant de fiches de poste de Chief of Staff que de Chief of Staff en poste aujourd'hui. Donc vous le disiez, 800 Chief of Staff en poste à ce jour en France. Alors nous, on a parlé à une cinquantaine d'entre eux et on a eu 50 descriptions de postes différents. Donc ça, c'était quelque chose d'assez délicat. Ce qui fait la particularité aujourd'hui des Chief of Staff, c'est que c'est finalement un chef d'état-major auprès d'un dirigeant. Et on a vu, et l'étude le montre, un triple win, une dimension gagnante, à la fois pour le dirigeant qui, lui, va gagner du temps de cerveau disponible en ayant un chief of staff, mais aussi pour l'organisation qui va pouvoir voir ses relations en interne fluidifiées, décomplexifiées, et pour le chief of staff évidemment, puisque pour lui c'est un tremplin, c'est un accélérateur de carrière évident. Et d'ailleurs on a 90% des répondants de l'étude hein, qui nous ont partagé ce point-là.
Alors justement, combien de temps on fait dans cette fonction? On pense beaucoup à des jeunes gens au masculin, au féminin, qui occupent cette fonction en début de carrière un peu high profile. Est-ce que dans les faits ça se vérifie? Est-ce qu'il y a une durée limite à partir de laquelle on est cramé pour avoir fait ce poste? Décrivez-nous un peu la réalité de terrain que vous avez perçue, peut-être Paul pour commencer.
Oui, effectivement. Ce sont des métiers polymorphes, comme je le disais, et qui sont en fait très prenants. La charge de travail, c'est quelque chose qui est très souvent revenu dans les retours. Il faut pouvoir encaisser hein, tout simplement le rythme de travail et la saturation d'informations. Donc ce sont en général des métiers très très prenants et qui ont eu des durées de vie assez courtes. Les chief of staff interrogés dans l'étude ont expliqué en gros que pour 80% d'entre eux, ils se voyaient en poste entre 1 et 5 ans, mais pas davantage. Donc ce sont des fonctions de transition entre, par exemple, des fonctions de conseil vers de l'opérationnel, ou alors des fonctions, ou alors une transition entre une direction métier, une direction de BU au sein de l'entreprise, pour aller encore plus haut dans l'entreprise, ou alors pour en sortir.
Paul, vous étiez en train de souligner à quel point c'est une charge mentale et qu'il faut pouvoir encaisser ce rôle hein, de chief of staff. Anne, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les qualités qu'il faut absolument cocher pour pouvoir faire ce poste? Et puis côté personne qui recrute un ou une chief of staff, quel budget il faut compter pour ajouter cette personne, ce talent à son équipe?
Il y a un prérequis essentiel pour exercer le métier de chief of staff, c'est la confiance. 100% des chief of staff qu'on a interrogés et 100% des dirigeants qu'on a interrogés de la même manière nous ont parlé de la confiance comme étant le socle indéfectible de la réussite de l'exercice du métier de chief of staff. En termes de fourchette, la fourchette la plus élevée, c'est entre 70 000 euros et 100 000 euros bruts annuels, et on peut facilement monter jusqu'à 200 000 euros.
Paul, vous corroborez sur les qualités en tout cas à avoir?
Oui, absolument. Anne l'a très bien dit. La relation essentielle, c'est entre le dirigeant et le chief of staff. Et la confiance, elle est nécessaire parce que le dirigeant donne une partie de lui-même à son chief of staff. Il lui fait confiance pour aller porter les messages de l'entreprise en interne, en externe, et pour déployer sa vision. Donc pour ça, la confiance est essentielle. Ouais.
Quand on traîne un peu sur LinkedIn, on voit qu'il y a un petit peu moins de 2000 profils identifiés comme chief of staff. Est-ce qu'on trouve plus de chief of staff auprès de dirigeants ou de dirigeantes? Est-ce que vous avez des stats là-dessus?
Déjà, la première chose qui est intéressante, c'est que quand on a commencé à travailler sur l'étude avec Paul, on pensait qu'on allait tomber beaucoup sur des patrons de la tech, parce qu'il y avait effectivement cette idée reçue selon laquelle les chief of staff exerçaient principalement auprès de dirigeants dans l'univers de la tech. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que 2/3 des dirigeants du CAC 40 aujourd'hui, et de la même manière 2/3 des dirigeants du Next 40, sont équipés, sont accompagnés d'un chief of staff au quotidien.
Donc plutôt masculin quand même. Si on regarde le nombre de patrons masculins au CAC et dans le Next 40...
En termes de parité, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que on est quasiment à 50% de profils féminins qui exercent le métier aujourd'hui. Je crois qu'on est à 46% de femmes et 54% d'hommes. Donc ça, c'était intéressant aussi de constater.
Et pardon de vous poser la question comme ça, mais comment on fait pour ne pas passer pour une assistante de deuxième plan quand on est chief of staff et qu'on est une femme par rapport à quand on est un homme ou un jeune homme et qu'on est chief of staff? Est-ce que c'est des sujets que vous avez senti poindre?
C'est une bonne question. Il y a autant de chief of staff que de dirigeants, en fait. Donc, les fonctions d'executive assisting sont toujours présentes quoi qu'il arrive, et quelle que soit la personne, quel que soit le chief of staff. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu pour le chief of staff de s'imposer et d'imposer une lisibilité de son poste au sein de l'entreprise, parce que c'est un poste dont les contours sont assez mouvants, qui est assez nouveau, et il faut que le poste soit lisible pour tous les collaborateurs. Pour que l'information lui parvienne de manière efficace. Donc c'est sûr que ça, c'est un sujet.
Et peut-être pour rebondir sur ce que dit Paul, beaucoup de chief of staff aujourd'hui, à peu près 1/2, sont équipés et sont accompagnés par une équipe, finalement, qu'ils managent, qu'on appelle un CEO office, équipe dans laquelle figure effectivement un ou une executive assistant.
Alors pour conclure, vous êtes aux manettes de la création d'un club, le club chief of staff. Pourquoi un club? Pourquoi fédérer cette profession? Qu'est-ce qui lui manquait?
Je crois que c'est un besoin qui s'est fait ressentir. En rencontrant des gens, et notamment des chief of staff, on s'est aperçu de la solitude. Et on parle beaucoup, là, on met beaucoup en avant, effectivement, le côté tremplin, le côté sympa, et puis le fait aussi d'être dans le secret des dieux, finalement, avec autant de proximité du dirigeant. On nous a beaucoup dit que c'était un MBA sur le terrain, finalement, le poste de chief of staff, et un véritable tremplin de carrière. Mais de l'autre côté, c'est aussi un métier dans lequel on est assez seul, puisqu'on n'a pas d'homologue au sein de l'entreprise, ça c'est la première chose, et aussi assez seul par rapport à la gestion de la carrière. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des deals qui étaient passés avec les dirigeants à l'entrée du poste. Or, si ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas le cas, on a vu que les RH, la dimension ressources humaines d'une entreprise, ne savaient pas nécessairement comment gérer parce que ce sont des profils hybrides à haut potentiel, donc qui ont vocation à derrière exercer des postes de C-level, donc de responsabilité opérationnelle. Et il y a cette difficulté-là, en fait, à échanger, à se retrouver et puis à partager les bonnes pratiques mais aussi les difficultés. Donc c'est un besoin qui s'est fait sentir et nous, comme on est un cabinet de conseil, on est le premier cabinet de conseil.
Je rappelle que vous travaillez chez Roland Berger, Anne.
Tout à fait, on est le premier cabinet de conseil de direction générale au niveau européen. On a vocation effectivement à se rapprocher des dirigeants et du fait de leurs problématiques.
Et pour l'Institut Choiseul, le mot de la fin, Paul?
Pour l'Institut Choiseul, c'était une évidence de créer une plateforme où les chief of staff peuvent se rencontrer. Chez Choiseul, depuis maintenant plusieurs années, on structure des communautés de décideurs et on les réunit dans des événements premium. Et ces communautés, ce sont des plateformes d'accélération de carrière et d'accroissement de leur relationnel. Et je pense que la population des chief of staff, on s'en est rendu compte avec Anne, ce sont des profils qui sont en accélération de carrière, qui sont en acquisition de compétences, qui veulent accroître leur relationnel, et c'est évidemment utile pour eux parce qu'en fait ce sont les ambassadeurs de l'entreprise Chief of Staff. Ce sont à eux d'aller chercher les signaux faibles, les signaux forts, d'aller nouer des partenariats et de maximiser l'impact qu'ils peuvent avoir, que leurs dirigeants et que leur entreprise peuvent avoir en se mettant en lien. Et donc ce club, c'est à leur service et ça doit leur permettre de se mettre en synergie pour maximiser leur impact.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce métier, cette profession et ces tendances. Merci à tous les deux. Merci à Anne Cortegiano qui est directrice des affaires extérieures et de l'engagement chez Roland Berger. Et merci à vous, Paul Gadel, directeur des opérations et des études de l'Institut Choiseul. Restez avec nous pour finir. On va zoomer sur l'alternance. On va parler de bonnes pratiques. À tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et le chiffre que je vous sors pour ce Labo RH, c'est 810 000. C'est le nombre de contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022. Un nouveau record. Et donc, c'est Arnaud Muret, le DG de l'OPCO EP, qui est avec moi pour déchiffrer ce chiffre et zoomer un petit peu sur l'alternance et l'apprentissage. Bonjour Arnaud.
Bonjour Lorraine.
810 000, vous corroborez ce chiffre, c'est bon, nos compteurs sont à jour à BFM Business?
Oui, vous êtes à jour et c'est vraiment une très belle réussite ce chiffre, comme vous l'avez souligné.
Entrée en apprentissage entre janvier et décembre 2022. Évidemment, l'alternance, c'est en train de rentrer dans notre vocabulaire quotidien, dans le monde économique. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un OPCO. Qu'est-ce que c'est que votre OPCO? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, ce que nous faisons, déjà, qu'est-ce que c'est que cet acronyme OPCO-EP? Ça veut dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Notre métier, c'est de financer la formation des salariés dans les entreprises et de financer l'alternance et en particulier l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que EP, entreprise de proximité? Eh bien, ce sont les métiers de l'artisanat du type alimentaire, boucher, charcutier, boulanger. C'est les métiers de l'artisanat de service, par exemple les coiffeurs, les esthéticiennes. Et puis, ce sont aussi toutes les professions libérales, les notaires, les pharmaciens. Et puis, nous avons un certain nombre de métiers autour, comme l'immobilier, voilà, les particuliers employeurs, les femmes de ménage, les assistantes
tout
maternelles.
De proximité.
Exactement. Et je dirais même, finalement, c'est vrai que entreprise de proximité, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est les entreprises, je dirais, du cadre de vie.
Les entreprises du cadre de vie. Alors, on conclut cette émission avec vous. Je voudrais conclure sur quelques bonnes pratiques. Votre mission, c'est de mettre en place des solutions adaptées, non seulement pour les salariés, mais aussi, voilà, au côté financement pour l'alternance et tout ce qui va être développement de compétences. Comment on peut améliorer les synergies entre les différents acteurs quand on parle d'alternance?
La première chose, je vais vous dire, c'était de réduire la difficulté pour prendre un contrat d'apprentissage. Parce que en 2018, il fallait 6 mois pour pouvoir à une entreprise avoir un contrat d'apprentissage, un apprenti, lui dire ça y est, c'est bon, t'es salarié chez moi en tant qu'apprenti. Mmh. Aujourd'hui, donc ça c'était en 2018, 6 mois, aujourd'hui c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui dépose, par exemple, sur le site de l'OPCO-EP son dossier, 24 heures après, il peut dire à son apprenti, ça y est, t'es salarié, tu démarres ton apprentissage. Et tous les OPCO, en fait, ont fait un énorme travail ces dernières années, qui font que maintenant, en quelques jours, quelques semaines, on est capable de dire à un apprenti, ça y est,
on y va.
Et ça, c'était la première chose, c'était d'être capable de réduire ce délai. Et maintenant qu'on a réduit et qu'on a fait ce travail ensemble, de cette réduction du frein administratif, on peut se concentrer sur le devenir de l'apprentissage, son intérêt. Et moi, ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, l'apprentissage, c'est devenu une vraie voie alternative à la formation initiale. C'est vraiment ça.
D'aucuns critiquent la place que prend l'apprentissage et qui abîme un petit peu le rôle du stage. Comment le professionnel de la formation que vous êtes regarde cette disparition du stage au profit de l'alternance ?
Pour moi, je ne les mets pas du tout en concurrence. C'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il y en a un, si vous voulez, le stage, il s'inscrit dans un processus qui est généralement dans la formation initiale et qui vient à un moment donné apporter certaines compétences. Tandis que l'apprentissage, c'est une autre modalité qui n'a rien à voir, mais qui inscrit la personne dans l'entreprise, dans un parcours. Donc, c'est deux choses qui ne peuvent pas rentrer en concurrence. En revanche, j'entends dans votre question un truc qui est très intéressant. C'est finalement...
Question que je vous remonte du terrain. Hein,
mais on se dirait, est-ce que finalement l'apprentissage cannibalise le stage ? Non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit en ouverture, 810 000 contrats d'apprentissage, c'est énorme, c'est une classe d'âge. Et une classe d'âge, c'est considérable, c'est bientôt 15% de la jeunesse qui fait de l'apprentissage.
Voilà, une classe d'âge. On va finir sur ce mot. Merci Arnaud Muret d'avoir été avec nous. Ces sujets d'apprentissage, d'alternance, ils vous touchent. Si vous voulez qu'on continue à les traiter, bien écrivez-nous, écrivez-moi pour qu'on réinvite Arnaud et puis ses confrères, ses consoeurs pour aborder ce sujet. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez des réactions, des commentaires sur notre antenne. Vous nous écrivez, vous m'écrivez. On s'adapte et on vous écoute. Cette émission est à retrouver en vidéo à la demande et en replay sur les différentes plateformes et en podcast aussi. Et puis bien sûr, c'est tous les week-ends sur à la radio, à la télé. À la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.